bienvenue à Arrêt sur le Monde. Je me présente, Frédéric Mérand, je suis professeur de sciences politiques, directeur scientifique du CERIUM et votre animateur. Aujourd'hui à l'émission, nous parlons de Joe Biden et de la démocratie en Amérique. Alors, dire que Joe Biden a du pain sur la planche depuis l'élection de 2020 serait un euphémisme. Le président démocrate a promis d'enrayer l'une des pires crises pandémiques de l'histoire, d'agir contre les tensions raciales, de redresser la situation économique, de lutter contre les inégalités et les changements climatiques, et ce, en bloquant autant que possible la montée en puissance de la Chine ou les velléités conflictuelles de la Russie. Tout ceci dans un contexte que beaucoup n'hésitent pas à qualifier de polarisation, voire de radicalisation d'une partie de la population américaine, peut-être même de dysfonctionnement des institutions démocratiques dans le pays et de méfiance assez largement partagée au sein de l'espace public américain. Alors, pour analyser certains de ces enjeux, je reçois notre spécialiste au CERIUM de politique américaine, Pierre Martin, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal et contributeur régulier au Journal de Montréal sur les questions de politique américaine. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors, commençons par l'impopularité de Joe Biden. Les derniers sondages la situent autour de 42% des Américains qui appuient le président un an après son élection. C'est un score relativement bas. Comment expliquer finalement ce mécontentement? Est-ce que les attentes étaient trop élevées? Est-ce que les promesses étaient trop grandes? Ou s'est-il produit des choses, par exemple le retrait de l'Afghanistan, qui ont entraîné cette méfiance croissante à l'endroit du président américain?
Alors, merci Frédéric de me donner une partie de la réponse. Donc, ce qu'il faut savoir, premièrement, il faut relativiser. C'est-à-dire qu'effectivement, la performance, le taux de satisfaction de la population à l'endroit de Joe Biden est très bas relativement à tous les autres prédécesseurs depuis l'invention des sondages, sauf un, c'est-à-dire le prédécesseur immédiat, Donald Trump. À date semblable, dans son premier mandat, Donald Trump avait un taux de satisfaction qui tournait autour de 37 à 39%. Donc, presque 5 points de moins que Joe Biden en ce moment, à 42 points. Il reste que tout ça s'explique de plusieurs façons. D'abord, avec le temps, il y a eu une tendance à l'électorat de se camper dans ses positions de façon tellement solide que pour deux groupes bien compacts de l'électorat américain, il ne saurait être question d'approuver ce que l'autre côté peut faire ou de désapprouver ce que son propre côté peut faire. Donc, ça explique que depuis la dernière décennie ou deux, les taux de satisfaction évoluent dans un couloir très étroit. Et donc, ça signifie quand même que c'est préoccupant pour Joe Biden parce que son score est très mauvais. Ce qui n'est pas entièrement anormal qu'il y ait une baisse de la satisfaction après quelques mois de mandat, parce que, bon, d'abord, on donne la chance aux coureurs dans les premières semaines, les premiers mois, et ensuite, la réalité commence à s'installer et les attentes dont tu parlais tantôt sont un peu déçues, tant chez les adversaires que chez les partisans. Et donc, il faut dire que chez les partisans démocrates, les démocrates ne constituent pas un bloc aussi solide que les républicains en ce moment. Et donc, il est fort possible qu'il y ait des démocrates qui expriment leur mécontentement. Ça a parti avec la sortie d'Afghanistan qui a été moins efficace, moins élégante, plus problématique que Biden escomptait. Mais je pense que les deux grands facteurs sont le fait que la pandémie s'éternise et un facteur qui est un peu étrange parce que, bon, la promesse de reprise économique de l'administration Biden a été largement tenue. L'emploi est revenu pendant l'été et au début de l'automne. L'économie américaine fabriquait des emplois plus rapidement que les gens du recensement étaient capables de les compter. Et donc, on a eu une performance économique très forte, un retour, pas tout à fait un retour exactement là où la tendance serait située si on n'avait pas eu la pandémie, mais un retour extrêmement rapide. Mais le penchant de cette bonne performance économique au plan de l'emploi, c'est qu'il y a des pressions inflationnistes qui sont encore une fois assez compréhensibles, étant donné le fait que pendant plusieurs mois, les consommateurs américains qui ont eu la chance de conserver leur emploi, donc la majorité des consommateurs américains, ont pu faire des économies, ils ont emmagasiné du comptant et là, ça démange à tout le monde de sortir dans les magasins pour dépenser, mais les chaînes d'approvisionnement se sont pas ont pas suivi et donc les prix augmentent. Et lorsqu'il y a une augmentation de l'emploi, ben, il y a une petite minorité de gens qui gagnent un emploi qui sont très contents et qui pourraient être portés à féliciter ou remercier leur gouvernant. Mais lorsqu'il y a inflation, et c'est particulièrement lorsqu'il y a une inflation qui frappe solidement ça fait à peu près 30 ans qu'on n'a pas eu un taux d'inflation aussi élevé que ce qu'on a maintenant. Je pense que tout le monde chez nous sont au courant. Ben, c'est tout le monde que ça frappe et tout le monde regarde directement au sommet pour blâmer le leader. Et donc, il y a un contre-coup qui se fait sentir. Entre parenthèses, soyons pas étonnés en observant ce qui se passe et en comprenant que c'était assez prévisible que ça se passe comme ça. Soyons pas étonnés que notre propre premier ministre ait décidé à l'été passé de faire une élection anticipée, parce que si on avait une élection aujourd'hui, il serait placé dans une situation beaucoup plus délicate à cause de l'inflation.
Donc, il y a des difficultés économiques, il y a des difficultés liées à la pandémie. Moi, ce qui me frappe quand même, en cas particulier des États-Unis, et c'est différent peut-être du Canada, c'est la méfiance croissante d'une partie importante de la population à l'endroit de ces institutions démocratiques. Or, ces institutions démocratiques, elles sont à certains égards les plus vieilles du monde, qui n'ont presque pas changé depuis 200 ans. Des auteurs qu'on fait lire en sciences politiques comme Alexis Tocqueville dans « La démocratie en Amérique » parlaient de la résilience de ces institutions basées sur justement une forme de capital civique ou de culture civique. Qu'est-ce qui explique, selon toi, le fait qu'aujourd'hui, par exemple, les Républicains ne considèrent pas un président démocrate comme légitime, de la même manière que probablement beaucoup de démocrates considéreraient que les élus républicains n'ont pas de légitimité?
Ah, c'est une grande question. C'est-à-dire que la première partie de cette question, la démocratie, ça tient à... C'est quand même fragile, une démocratie. Ça tient au respect d'un certain nombre de conventions, de normes qui vont bien au-delà des règles écrites. Et parmi ces conventions, ces normes-là, bien, il y a le fait de tenir des élections libres, de tenir des élections qui sont justes et surtout d'accepter le résultat de l'élection. C'est ce qu'on observe aux États-Unis depuis quelques temps, c'est que la polarisation politique et le rejet du parti adverse sont rendus à un point tel que on est prêt à sacrifier ces normes démocratiques juste pour gagner. Et donc, c'est beaucoup plus important de gagner une élection que de faire en sorte que le système fonctionne de façon juste, équitable et libre pour tout le monde. Et donc, ça, c'est le fait d'une bonne partie de la population. Et malheureusement, il faut dire que c'est pas également réparti. C'est surtout du côté du Parti républicain. Pourquoi? Certains prétendent que c'est parce que le Parti républicain, qui a nettement fait le choix de fonder sa base électorale sur ce qui a longtemps été la majorité blanche chrétienne qui existe aux États-Unis, cette majorité devient petit à petit une minorité. Et il y a beaucoup de républicains qui sentent la soupe chaude, qui sentent qu'à plus ou moins long terme, leur emprise sur la majorité est de plus en plus menacée par la diversification de la population et le fait que les jeunes, le fait que les populations issues de l'immigration sont beaucoup plus attachées au Parti démocrate. Et donc, à plus ou moins long terme, on pourrait prédire une tendance forte qui irait contre le Parti républicain. Et donc, on adopte une position défensive, on adopte une position qui consiste à dire on va gagner les élections à tout prix. Et dans plus en plus d'États qui sont contrôlés par les républicains, ça signifie aussi manipuler les institutions, manipuler le processus électoral, trafiquer des cartes électorales pour être certain d'avoir des majorités législatives alors qu'on n'a pas nécessairement la majorité du vote, mais aussi limiter le vote pour certaines catégories de la population, faire en sorte que ce soit de plus en plus difficile d'aller voter pour les électeurs issus des minorités ethno-raciales, par exemple. On observe, par exemple, que dans les États contrôlés par les républicains, on va avoir le jour d'une élection, ça sera très facile d'aller voter dans les comtés ruraux et ça va être extraordinairement difficile de voter dans les comtés urbains. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que les gouvernements de ces États-là ne répartissent pas également les bureaux de vote et font en sorte que ce soit très difficile. Il faut attendre 4, 5, parfois 6 heures et plus pour aller voter dans les comtés à prédominance démocrate. Donc, on a cette notion selon laquelle on doit absolument gagner et ça devient presque acceptable dans une bonne partie de la population de le faire en manipulant les règles du jeu démocratique.
Mais en t'écoutant, j'ai l'impression que tu te places plutôt dans le camp de ceux et celles qui estiment qu'on observe moins une polarisation, c'est-à-dire une situation dans laquelle les électeurs démocrates et les électeurs républicains se méfient les uns des autres de plus en plus, et davantage une radicalisation du parti républicain, dans lequel, en fait, c'est la droite qui va de plus en plus à droite plutôt que la gauche qui va aussi de plus en plus à gauche. Est-ce que c'est comme ça que tu vois les choses?
C'est-à-dire que la polarisation, elle est asymétrique. On peut la noter du côté du parti démocrate, entre autres parce que étant donné qu'on fait de plus en plus des élections... Quand on a polarisation, une des conséquences, c'est que ça devient de plus en plus difficile, voire impossible, de persuader des électeurs qui ont déjà choisi leur camp de changer d'idée. Donc, on ne fait plus des campagnes de persuasion, on fait des campagnes de mobilisation. Or, quand on fait une campagne de mobilisation, que ce soit du côté républicain ou du côté démocrate, bien, on va vers le noyau central du parti, on va vers les militants les plus actifs pour aller là où se trouve l'énergie et faire en sorte que l'électorat sorte. Et c'est ce qu'on trouve du côté républicain, donc une tendance à accepter à peu près tous les courants radicaux et surtout ne pas les contrarier parce qu'on en a besoin pour mobiliser l'électorat républicain. Du côté démocrate, on sent un peu la même tendance, mais c'est beaucoup moins prononcé et c'est aussi, ça reste dans le cadre de l'acceptation des règles du jeu démocratique.
Ah, Pierre-Martin, tu suis la politique américaine depuis longtemps, tu as vécu aux États-Unis. De ton point de vue, les attentats, par exemple, ou l'attaque contre le Capitole le 6 janvier 2021, ce qu'on observe dans certains États, ce que tu expliquais, ces tentatives de détourner finalement le système démocratique, est-ce que c'est anecdotique ou est-ce une véritable source d'inquiétude pour la démocratie et même la paix civile? Certains disent qu'il risque d'y avoir un jour un conflit beaucoup plus ouvert aux États-Unis.
Je pense que c'est une véritable inquiétude. C'est pas seulement anecdotique parce que on observe une incapacité appelons-la systémique à l'intérieur du Parti républicain, de condamner ce genre de gestes, de peur justement de perdre ce noyau d'électeurs qui leur est gagné à 100%. Et là, c'est vraiment très difficile à saisir du point de vue d'une population comme la nôtre où on a une culture beaucoup moins axée sur les armes à feu, la violence. Et du côté, les Américains sont quand même très portés à cette radicalisation, si vous voulez, le fait qu'on ne fait pas confiance à l'État comme monopole de la violence qu'on dit légitime. Et donc, ce fond de violence qu'on retrouve dans une partie du Parti républicain et cette incapacité du parti dans son ensemble et de ses leaders de condamner ce genre d'action est quelque chose qui est très inquiétant et qui signale, par exemple, que à une élection prochaine, on avait encore le même genre de résultats plutôt serrés qui iraient dans le sens contraire des vœux de l'électorat républicain. Je pense qu'il y a lieu de s'attendre à beaucoup plus de grabuges, beaucoup plus de manifestations de genre. Et ce qui est inquiétant dans une certaine mesure, c'est de voir la résignation de l'électeur républicain type personne honnête qui va travailler tous les matins, qui n'est pas nécessairement porté à la violence, mais qui accepte l'image déformée qu'on fait de ce genre de geste parce que dans les médias dits de droite, on présente ça comme l'expression musclée d'opinion plutôt que le recours à la violence pure et simple. Et donc, on est en train, par exemple, de transformer la perception de ce qui s'est passé le 6 janvier comme étant une manifestation comme une autre où il y a eu un petit peu d'agitation, mais rien de très compliqué dans l'esprit de ce qui est presque la majorité de l'électorat républicain. C'est l'image qui est en train de s'imprimer. Et le problème avec ça, c'est que quand le processus normal de la justice suit son cours et que les gens qui sont responsables pour ces événements extrêmement violents le 6 janvier sont appréhendés et éventuellement jugés et condamnés, on considère que c'est une utilisation injuste et partisane de l'appareil juridique par les adversaires démocrates et ça alimente encore plus l'insatisfaction, la polarisation et la radicalisation. Donc, on n'est pas sorti encore de ce cycle, de cette spirale, et je pense que ça va être pire avant d'être meilleur.
Alors, il y a le Parti républicain qui se radicalise. J'aimerais qu'on parle aussi du Parti démocrate, parce que ce parti n'a pas été particulièrement unifié pendant les négociations, notamment autour des grands plans de reprise économique, le Build Back Better de Joe Biden. Il a eu beaucoup de difficultés à le faire adopter. Ce plan a été en grande partie édulcoré, pas tellement à cause de l'opposition des républicains, mais parce qu'au sein même du Parti démocrate, il semble y avoir des divisions importantes. Comment est-ce que ça augure pour les élections de mi-mandat qui s'en viennent très bientôt en 2022?
Ça augure assez mal, il faut dire, parce que il y a plusieurs facteurs à considérer. Premièrement, le contexte des élections de mi-mandat, de façon presque automatique depuis plusieurs décennies, plusieurs générations politiques, à une ou deux exceptions près, lors d'une élection de mi-mandat, le parti du président perd du terrain. Et c'est presque toujours systématiquement le cas. Pourquoi? Parce que, premièrement, il y a de façon générale, cette tendance de l'électorat américain d'agir comme un thermostat, c'est-à-dire que si on a chauffé un peu trop d'un côté, on va refroidir de l'autre. Si on a élu un président d'une couleur, on va avoir une certaine tendance à se rétracter vers un congrès de l'autre couleur et tout ça. C'est un processus qui est normal. Maintenant, la situation dans laquelle on est en ce moment avec cette tendance de fond, donc défavorable au parti du président, les démocrates ont une majorité vraiment très mince à la Chambre des représentants, d'à peu près 6 sièges, donc c'est entre 5 et 8, là, je me souviens plus exactement, mais une majorité très mince à la Chambre des représentants, et ils ont une majorité qui est vraiment par un cheveu au Sénat, puisqu'il y a 50 sénateurs qui siègent avec le Parti démocrate, donc 48 démocrates, 2 indépendants favorables aux démocrates, donc 50 d'un côté et 50 de l'autre. Mais c'est parce que la vice-présidente possède un vote prépondérant que les démocrates peuvent contrôler le Sénat. Mais le problème, c'est que pour faire passer quoi que ce soit, à la majorité simple, ça prend tous les démocrates. Alors, deuxième partie de la question, pourquoi c'est si compliqué? C'est entre autres parce que les démocrates, traditionnellement, sont un parti très diversifié. Donc, un parti où on a autant, et c'est vraiment de longue date. Il y avait un humoriste dans les années 30, par exemple, qui est du nom de Will Rogers, qui ne vous dira peut-être pas grand-chose aux jeunes générations, mais qui disait, qui était un démocrate bien connu, mais qui disait « Je ne suis membre d'aucun parti organisé, je suis un démocrate ». Et ce qu'il voulait dire par là, c'est évidemment que les démocrates ont cette tendance légendaire à être désunis, désorganisés, à ne pas nécessairement se rallier automatiquement au leadership. Contrairement aux républicains, où on a un parti qui a longtemps été beaucoup plus mené par le sommet, un parti qui était beaucoup plus uniforme et homogène, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Donc, on a un parti qui est très hétérogène et une partie de son appui vient d'une longue tradition démocrate, mais relativement, qui combine deux facteurs qui sont aujourd'hui un peu incompatibles, c'est-à-dire une certaine ouverture à l'intervention gouvernementale du côté économique, mais un conservatisme du côté des enjeux sociaux, des questions sociales. Et c'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans des États comme la Virginie-Occidentale, qui est un des États clés ici, puisque son sénateur est un démocrate, Joe Manchin, donc, dont on entend beaucoup parler quand on suit la politique américaine au jour le jour. Et Joe Manchin, donc, est un démocrate de la vieille école, proche des syndicats ouvriers, proche des favorables à l'intervention gouvernementale, mais très conservateur sur le plan social et surtout aussi quand je dis favorable à l'intervention gouvernementale, c'est-à-dire favorable au programme existant, mais très méfiant face à l'expansion de l'État et dans un État où il y a cette culture individualiste très forte. Et il a développé donc de très longue date un lien intime avec son électorat. Il le connaît bien et il sait très bien que s'il s'engage trop loin dans des politiques interventionnistes, dans des politiques dites libérales, dans des politiques associées à la gauche, dans notre façon traditionnelle de voir les choses, il risque de perdre une partie de son électorat. Il est le plus visible dans cette situation-là, mais il y en a plusieurs autres qui sont dans des États où leur majorité est très faible et où on a intérêt donc à ne pas trop brasser la cage, ne pas trop pousser vers une intervention très active. Et le problème, c'est que le leadership démocrate, qui vient d'États plus urbanisés, de populations plus favorables à des programmes sociaux plus généreux et surtout des valeurs sociales plus libérales, entre autres en ce qui concerne le rôle des femmes dans la société, parce qu'il y a beaucoup de ces politiques qui touchent l'intégration plus rapide des femmes dans le courant principal de la société, notamment tout ce qui concerne la garde d'enfants, et on connaît bien ça au Québec, là, la question des garderies là, qui est au centre du grand projet de loi qui est à l'étude en ce moment. Tout ça, ce sont des valeurs qui sont dont on se méfie dans ces États plus conservateurs qui sont à la marge entre les deux partis. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a une très forte opposition interne dans le Parti démocrate et ça se voit en ce moment avec la très grande difficulté de mettre en œuvre le principal projet de loi qui combine, c'est un projet de loi omnibus en ce moment, qui combine des politiques sociales, des politiques environnementales, à peu près tout ce qu'on peut être capable de faufiler dans un projet de loi selon les règles pour pouvoir l'adopter avec la majorité simple. La situation qu'on vit en ce moment, donc de cette grande difficulté, ne fait qu'accentuer les divisions et faire percevoir dans la population une image d'inefficacité.
Et donc ça, c'est le fameux plan d'investissement dans les infrastructures physiques, mais également sociales, environnementales, qu'on appelle parfois « Build Back Better ». J'aimerais qu'on termine sur la vice-présidente, justement. Au début de cette nouvelle administration, on parlait souvent de l'administration Biden-Harris. J'ai l'impression qu'on utilise beaucoup moins cette expression aujourd'hui. On évoquait aussi souvent le fait que Kamala Harris serait probablement la prochaine présidente des États-Unis, en tout cas certainement la prochaine candidate du Parti démocrate en raison de l'âge de Joe Biden. Encore là, j'ai l'impression que c'est un discours qu'on entend moins aujourd'hui, et en partie parce que Kamala Harris semble s'être effacée de la scène politique. Comment expliquez-vous cet effacement, en tout cas apparent, de Kamala Harris?
Kamala Harris, elle représente une grande section du Parti démocrate. Elle est d'ascendance afro-américaine, donc son père était antillais, donc si ma mémoire est bonne, de Jamaïque ou de l'île des Antilles. Sa mère était indienne, donc elle est doublement minoritaire et en tant que femme qui a fait sa carrière en exerçant des métiers d'homme, elle symbolise justement cette transformation des valeurs des gens pourraient peut-être lui attribuer un petit peu sur le plan personnel, c'est quelqu'un qui passe très bien, qui parle très bien, mais qui peut peut-être aussi sembler pour ceux qui sont plus hésitants à suivre son courant, elle peut sembler un peu rugueuse et c'est ce qu'on observe peut-être il y a une tendance à certains de ses associés proches de quitter son orbite. Donc, son leadership sur le plan personnel est contesté dans une certaine mesure. Certains diront que c'est le propre des leaders femmes. Il ne faut quand même pas se cacher que les critères ont tendance à être un peu différents chez les femmes et chez les hommes. Une femme qui affirme son autorité va être considérée très différemment qu'un homme qui affirme son autorité. Je pense que tous connaissent des cas qui correspondent à ce genre de sexisme assez clair. Donc, on a une vice-présidente à qui on accordait beaucoup, on fondait beaucoup d'espoir sur Kamala Harris pour éventuellement succéder à Joe Biden. Même certains disaient qu'elle est en attente pour une course immédiate en 2024, puisque elle serait, si Joe Biden, qui est à un âge avancé, ne souhaite pas faire un second mandat, sa vice-présidente deviendrait une candidate naturelle pour lui succéder. Maintenant, ça semble être moins facile que ce que plusieurs auraient pu prédire. Ça tient un peu à cet ensemble de facteurs un peu intangibles que je mentionnais tantôt. Il y a peut-être aussi une faute dans le style de communication de l'administration qui n'a pas suffisamment mis l'accent dans ses communications au sujet de ce que l'administration souhaite faire, notamment le contenu de ce fameux projet de loi Omnibus Build Back Better qui contient tellement de politiques différentes que ça devient très difficile de garder en tête au juste qu'est-ce que ça signifie. Et pendant des mois, on a uniquement communiqué à la population le montant d'argent qui était associé au projet de loi, qui était, selon différentes versions, qui a varié entre, à un certain point, c'était à 5 000 milliards de dollars et ça a descendu jusqu'à 1 500 ou 2 000 milliards de dollars. Mais pour les gens, en anglais, on parle de trillions, et c'est des chiffres qui sont impossibles à comprendre, essentiellement, pour le monde ordinaire. Et au lieu de dire aux gens, voilà, nous allons vous donner des bénéfices concrets, nous allons vous donner un certain nombre d'interventions qui sont demandées par la population, qui sont populaires, qui sont nécessaires pour faire avancer l'économie de la société américaine, bien, on a communiqué de façon très gauche en mettant l'accent sur la procédure. Et Kamala Harris était tout aussi prise dans ce problème-là que Joe Biden lui-même. Donc, oui, elle n'a pas livré la marchandise. C'est en partie à cause d'un problème de communication qu'il faut leur attribuer la responsabilité, mais aussi une réceptivité d'une population qui garde un fond sexiste ou qui donne des critères un peu différents aux membres de minorités ethno-raciales et aux femmes. Et je pense qu'elle est tombée dans ce piège, malheureusement, pour elle. Et il faudra que les démocrates probablement se trouvent un autre dauphin à Joe Biden s'ils ne souhaitent pas revenir en 2024.
Bon, très à suivre, donc. C'est ce qui conclut notre émission sur Joe Biden et la démocratie en Amérique. Un grand merci à notre invité, Pierre Martin, à l'équipe technique, à notre recherchiste, Emma Guerrero-Dufour, et à nos partenaires, le Cerium, l'Agence France-Presse et Savoir Média, qui nous permettent quelques instants de faire un arrêt sur le monde. À très bientôt.